la cire en passant par ou une chaîne italienne, ou Bessy, ou le Rosport, les oncles ayant cédé aux charmes insoupçonnés de la télécommande, les appant avec une férocité décuplée par l'installation de la parabole aux grandes dames de Nicole qui n'en pouvaient mais, n'étant pas maîtresse du fatidique engin. De Nicole et des oncles, on devinait tout, on finissait par savoir, même elle, Annette, l'étrangère, comment ils se tenaient autour de la table sans Paul, avec, à la droite de Nicole, cette chaise vide qui ne serait pas repoussée contre le mur. La place du frère était là, restée là, marquée, comme en attente. On ne changeait rien, on ne changerait rien, qui savait le fin mot de l'histoire. Et si, il y reviendrait alors, à la table, en bas avec les siens, il serait là, comme avant, dormant et faisant ses ablutions à l'étage en ses quartiers, les reculant devant la nécessité de prévoir de quoi manger, d'y penser de se le procurer, de le préparer, de s'occuper de toute cette intendance que l'atavisme confiait aux femmes, bien content de mettre les pieds sous la table et de s'asseoir avec ceux du sang pour ingurgiter la commune et roborative pitance dispensée par la sœur nourricière. Les bouchers faisaient bosse le long des coups maigres des oncles. Raides dans des chemises à carreaux boutonnés d'hume, on voyait descendre la protubérance avec lenteur. Dans l'effort, les oncles, dans l'acte de manger, se montraient méthodiques. Ils ne manifestaient ni contentement ni déplaisir. Sérieux, ils se remplissaient le corps. Un dessert suscitait parfois de leur part un compliment parcimonieux que Nicole, la franche furieuse, recevait en pleine face, faisant mine de ne rien entendre. Malmenant d'un grand fracas sa chaise pour se saisir en toute urgence d'un torchon abandonné sur la gazinière ou servir à la hâte dans les verres légèrement bombés le café encore trop chaud. Annette prenait soin de ne pas épier, de ne pas attendre et de glisser sur le plancher, attentive à ne pas signaler sa présence à ceux d'en bas qui en savaient déjà les toujours trop depuis le début, accablée dès le premier jour, et elle le sentait fort peu enclin à se résigner. Éric, silencieux par nature et comme rompu de naissance à se faire oublier, connaissait les obscurs commandements de cette religion de la discrétion. Annette voulait espérer que ceux d'en bas finiraient par s'endormir, par les oublier, pour mieux se rendre compte un jour, ensuite que les deux, eux, la femme et l'enfant, les recueillis, faisaient désormais partie du paysage, avaient creusé le sol sous eux, pris corps et racines, au point que l'on ne saurait leur retirer ce qui était acquis pour les renvoyer au rien, à ce flottement des petites villes à garde où des femmes élimées élèvent seules des enfants dans des logements de hasard. Annette gardait au fond d'elle sa peur ancienne et s'appliquait à lui tenir tête tant il fallait à Fridière tout apprivoiser. Les bruits de la nuit étaient une aventure, elle ne les avait ni supposés ni redoutés, n'ayant vécu auparavant que dans des espaces confinés véchiches, avec son père et sa mère d'abord, dans la maison étroite collée à la rue et à d'autres maisons, avec Didier ensuite, ou Éric, dans divers appartements sans mystère. Les bruits de la nuit n'appartenaient pas aux vivants, ils avaient parti liés avec d'autres forces qui, à Fridière, plus que partout ailleurs, se cachait derrière l'apparence des choses. La lumière du jour, fût-elle en hiver avare et sans aménité, tenait à distance ce qui, aux premières poussées de nuit, se déployait pour tout prendre. Annette avait réfléchi. Des hommes, des femmes étaient nés et morts dans cette maison, dans les chambres du bas dont on apercevait, l'été, quand les fenêtres étaient ouvertes, les entrailles encombrées de meubles luisants, dans ces lits où dormaient les oncles, où ils mouraient peut-être par surprise. Du moins le demandaient-ils, affirmant leur refus de l'hôpital, de la vieillesse parquée en collectivité et de l'acharnement médical. Dans ces lits hauts des oncles étaient morts les selles de leur sang. Annette sentait des présences. La maison frémissait. Des frissons couraient d'un bout à l'autre. Derrière la cloison dérisoire de la chambre s'ouvrait le gouffre de la grange, et sous elle celui de l'étable, qui, la nuit venue, malgré l'éclairage sommaire, cessait d'appartenir au monde connu, sombrait, coulait à pic dans le noir. Elle n'avait pas eu vraiment peur. Même au début, la maison de pierre et de bois était un bon refuge, un lieu sûr, elle le devinait, et pas seulement grâce à Paul. Cette maison ne voulait pas de mal. Elle avait certes ses humeurs, et parlait, la nuit, mais on pouvait s'y tenir au chaud. Les vieux morts ne mordraient pas, leurs noms et prénoms étaient gravés sur la plaque au cimetière d'Eugénie, Joseph, Marie, Jeanne ou Alphonse, Pradier, Durif, Rongier. Annette était allée les visiter une fois, à l'automne de la première année, avait lu les prénoms, flanqués de Paul, qui disait n'en avoir connu aucun, à l'exception de ses grands-parents maternels, les parents des oncles, dont il conservait une image floue de créatures sèches penchées sur des assiettes de soupe. On ne négligeait pas ces vieux morts. Ils avaient leur chrysanthème à la Toussaint. Ils étaient en paix, plus que les vivants, Annette l'avait souvent pensé, les morts n'avaient pas à se battre, c'était fini pour eux et facile, plus facile que pour Nicole qui défendait son territoire et son rang auprès du frère. Pendant les premières nuits, nuits de juillet, de plein été, Annette s'était émerveillée de s'endormir, fenêtre ouverte, dans le frisolis limpide des cloches des vaches répandues de part et d'autre des bâtiments, le troupeau de Paul dans le pacage du haut et celui du voisin en lisière du poids de hêtre qui cernait le hameau. Tant de douceur onctueuse, tant de grâce nuitamment dévolue à ces bêtes lourdes.